Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le film, consacré ce mois-ci au film de Charlie Chaplin, Le Dictateur. Un film de 1940 et je suis très heureuse et honorée d'en parler aujourd'hui avec Jean Narboni. Bonjour Jean Narboni.
Bonjour.
Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous présenter. Vous avez été critique de cinéma, vous êtes historien, universitaire, essayiste aujourd'hui. Vous avez été enseignant à Paris 8, Vincennes puis Saint-Denis, c'est ça? Et vous avez été aussi rédacteur en chef des Cahiers du cinéma entre 1968 et 1973. Vous avez signé de nombreux articles et de nombreux ouvrages. Vous en avez même édité, puisque vous avez édité La Chambre claire de Roland Barthes. Vous avez aussi signé des livres d'entretien avec Jean-Luc Godard, Samuel Fuller. Et vos dernières parutions sont, alors, en 2009, un livre d'entretien avec Luc Moulet. Et en 2010, donc, le livre qui va nous intéresser aujourd'hui. Pourquoi les coiffeurs, note actuelle sur Le Dictateur. Je signale aussi que votre dernier ouvrage est paru fin 2015. C'est un ouvrage qui s'appelle La nuit sera noire et blanche
Oui.
sur la chambre claire de Roland Barthes.
Et les rapports complexes que Barthes entretenait avec le cinéma, donc c'est aussi sur plus généralement Barthes, la photo et le cinéma, à partir d'un retour sur la chambre claire.
Donc un livre que vous commentez après l'avoir édité. Alors sur Le Dictateur, en lisant votre livre et en revoyant le film, ça a été l'occasion pour moi de me replonger dans un film que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Je pense que j'en gardais un souvenir comme beaucoup de gens, un souvenir d'adolescence, un souvenir de film à la fois pédagogique et historique sur un pan de l'histoire. Et étant une très grande fan de Chaplin, étant même presque chaplinienne, je pourrais dire, c'était pour moi un film, peut-être le film de Chaplin que j'aimais le moins, parce qu'il était, je le trouvais un peu maladroit, un peu trop sentimental. Et je dois dire qu'en le revoyant, j'ai été frappée par son aspect encore brûlant, non pas tant parce qu'il serait encore en résonance avec une sorte d'actualité, hein, ce serait très maladroit de dire ça, mais plutôt parce que c'est l'idée même que je me fais d'un grand film politique, c'est-à-dire que tout passe sans cesse par la forme, que tout est d'abord, toute idée formelle est une idée politique, tout est à la fois commentaire politique et idée de cinéma. Et c'est un film qui ne cesse d'expérimenter, de se chercher. Et on va essayer de voir au cours de cette émission peut-être de s'arrêter sur quelques moments du film, comme vous le faites dans votre ouvrage, qui est donc une succession de notes. Alors j'aimerais peut-être commencer par ce titre très énigmatique que vous expliquez dans votre livre, Pourquoi les coiffeurs? Alors qu'est-ce que c'est, Pourquoi les coiffeurs?
D'abord, toutes les analyses du dictateur disent le petit barbier juif. En anglais, c'est barbeur, mais barbeur, ça veut dire aussi coiffeur. Et dans le film, il est principalement barbier, puisqu'on voit le célèbre moment avec la danse hongroise de Brahms, mais il est aussi coiffeur. Donc, à un moment, il transforme Paulette Godard en une fille du ghetto et qui, tout d'un coup, devient resplendissante après être passée entre ses mains en tant que coiffeur. Et voilà, donc l'histoire de coiffeur a résonné avec d'autres choses. Et puis, bon, comme il s'agit tout de même d'un film sur, principalement, pas seulement le nazisme et Hitler, mais sur la persécution des Juifs, m'est revenu en mémoire cette histoire immémoriale dont on ne connaît pas l'origine et qui consiste à. En substance, c'est quelqu'un arrive en disant, tu sais, demain, voilà, le despote en place ou le gouvernement a décidé de tuer tous les juifs et tous les coiffeurs. Et l'autre naïvement répond, ou pas naïvement répond, pourquoi les coiffeurs? Voilà. Donc, je
Je n'ai pas
trouvais
le droit
que,
d'en rire, mais c'est pas drôle,
comme
mais.
s'il était tout à fait normal que les juifs soient exterminés, mais que les coiffeurs, c'était tout à fait. Normal, plutôt anormal, les coiffeurs.
Et donc dans le film, Chaplin est à la fois coiffeur et juif. Donc
Il est
c'est
coiffeur
le.
juif et barbier, puisque
Il est barbier.
voilà, donc il coiffe une fois, il est barbier une ou deux fois dans le film, et puis évidemment il est juif, et ça c'est très important, parce qu'à l'époque, il est absolument exclu que le nom de juif soit prononcé à Hollywood, pas en Allemagne, où il était souvent prononcé pour être insulté, mais on pourra parler de la jeunesse du film et des difficultés qu'il a eues.
Bon, on va en parler, justement, ça a été un film... C'est drôle parce que souvent, on a l'impression qu'un film aussi mythique, le dictateur, a presque comme ça un statut d'évidence, alors que même quand j'ai lu votre livre, je me suis rendu compte que la jeunesse du film a été très, très compliquée. Donc il y a d'abord un scénario de 300 pages, je crois, qui aura pris 2 ans à Chaplin. Oui. Ensuite, bon, ça c'est la première difficulté, c'est-à-dire que Chaplin essaye de trouver une forme à ce film qu'il a envie de faire et qu'il veut faire à tout prix. Il rencontre plusieurs résistances, à la fois du régime nazi, qui exprime par voie médiatique son mécontentement, et puis aussi à Hollywood. À Hollywood, personne ne veut faire le film, tout le monde est frileux.
Oui, non, mais je crois qu'il faut replacer ça historiquement en perspective de façon très précise. C'est-à-dire qu'au moment, Chaplin écrit le scénario bien avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire septembre 1939. Déjà, quand on entend dire que Chaplin va faire un film où il risque d'égratigner le régime nazi, Hitler est au pouvoir depuis 1933, donc il y a des réactions de tous ordres, attention, il ne faut pas, protestation de l'Allemagne, etc. Quand le film commence à se préciser avant même le tournage, la relation diplomatique entre l'Allemagne et les États-Unis existe. Mmh. Mais quand il commence le film, il commence réellement le film quelques jours après le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Mais la Deuxième Guerre mondiale en 1939, l'Amérique n'est pas en guerre. C'est-à-dire que le tournage commence le 6 ou le 8 ou le 9, j'ai oublié, septembre, c'est-à-dire quelques jours après la déclaration de guerre mondiale. Elle est devenue mondiale, mais au moment où le film commence, ceux qui sont en guerre, c'est l'Angleterre et la France, sont en guerre contre l'Allemagne. Un point, c'est tout. Aux États-Unis, on a une ambassade d'Allemagne avec la croix gammée, avec des diplomates qui peuvent se promener n'importe où. Et à Los Angeles, on a également des diplomates, des représentants allemands. Donc Chaplin commence à faire ce film dont on sait qu'il va être un brûlot, donc qu'il va attaquer personnellement Hitler. Et qu'en plus, sacrilège pour tout le monde, y compris à Hollywood, il va être question explicitement des Juifs, c'est extraordinairement risqué. Donc les résistances viennent de toutes parts. Et ce que les gens aussi ne mesurent pas souvent, c'est que quand le film sort,
donc en 40,
et qu'il est montré en 40, l'Amérique n'est toujours pas en guerre avec l'Allemagne.
Alors c'est d'autant
puisque l'Amérique est entrée en guerre en 41. Après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Donc imaginez ce que c'est qu'un pays qui n'est... Bon, même si l'administration Roosevelt était très hostile à Hitler, aider souterrainement, indirectement, les anti-nazis européens, officiellement, l'Allemagne n'était pas en guerre, les États-Unis n'étaient pas en guerre contre l'Allemagne. Donc le film est projeté comme projet, il est réalisé comme tournage, montage, etc., il est projeté aux États-Unis, alors que officiellement, les États-Unis ne sont pas en guerre avec l'Allemagne.
Et c'est d'autant plus risqué qu'on dit à Chaplin, ça peut être très dangereux de faire ce film pour les Juifs allemands.
Les résistances viennent de toutes parts, du côté des nazis, bien évidemment. Hostilité totale, avec un aspect économique qui n'était pas négligeable pour les productions américaines.
Donc Chaplin investit son propre argent.
Voilà, voilà.
Il est très riche à ce moment-là, il faut le dire.
J'ai intitulé un des chapitres « La guerre d'un seul homme ». Je reprends le titre d'un film de Kozarinski, d'Edgardo Kozarinski, parce que réellement, il a fait ce film tout seul. Et heureusement, il était assez riche pour ça. Enfin, pour une fois, le fait d'être immensément riche a pu servir entièrement à une bonne cause, ou à une cause juste.
Vous parlez de la Warner, donc, qui était le seul studio anti-nazi déclaré anti-nazi.
Donc les nazis, évidemment, hostilité totale. En jouant sur deux plans. Un, économiquement, blocage de toutes ces productions américaines dans les pays occupés par les nazis, qui étaient nombreux à ce moment-là. Et deuxièmement, attention, s'il est question des Juifs, les quelques Juifs qui restent en Allemagne ou en Autriche ou en Europe vont en pâtir. Bon. Aux États-Unis même, de très très forts courants isolationnistes, c'est-à-dire des gens qui ne voulaient pas que l'Amérique entre en guerre contre l'Allemagne, en disant « c'est pas notre affaire, c'est très loin, ça ne nous concerne pas », des gens neutres entre guillemets, et puis aussi de très très forts courants pro-nazis aux États-Unis. Aux États-Unis même, on voyait au Madison Square Garden 3000 personnes avec une chemise noire et faisant le drapeau hitlérien, des Américains, certains d'origine allemande de longue date, mais aussi des Américains nés aux États-Unis. Ça, c'était l'hostilité politique. Et puis, les studios étaient très hostiles. Et même si beaucoup de studios étaient dirigés par des magnats juifs, ils étaient très inquiets, à la fois sur la persécution que ça pourrait entraîner chez les parents ou la famille en Europe, et puis aussi, quelquefois, pas indifférents à leurs intérêts économiques. Donc, hostilité. Et donc, je sais pas, on sait que le représentant nazi aux États-Unis pouvait convoquer des gens de la Metro-Goldwyn-Mayer en disant « Attention, ça va mal se passer si M. Chaplin fait ce film. »
Et bon. Comme vous le dites très bien, le film arrive trop tôt. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre c'est un film prématuré, c'est-à-dire qui arrive trop tôt, qui est peut-être... Je disais tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de maladroit dans le film. Peut-être que ça vient de là. C'est-à-dire que c'est un film qui...
Oui, mais enfin, tout de même.
Qu'est-ce que c'est un film qui arrive trop tôt ?
Voilà. C'est un film unique pour moi. Quand je dis unique, ça ne veut pas dire, je ne dirais pas que c'est le plus beau film de l'histoire du cinéma. Il est unique, c'est-à-dire ce qu'on appelle un apax, quelque chose qui n'a lieu qu'une fois.
Un événement.
Voilà. Il n'y a pas d'autre exemple dans l'histoire du cinéma qu'un cinéaste universellement connu, aussi connu que... Oui, et un personnage, Charlot, évidemment. On disait aussi connu que Napoléon Jésus-Christ. Bon, face à un film s'en prenant à un État et à une personne en tant que représentant cet État, c'est-à-dire le Führer, l'Allemagne était concentrée en Hitler à ce moment-là, au présent, et même presque prématurément, si j'ose dire, effectivement, par rapport à ce qui allait se passer jusqu'en 1945, et face à un film qui, en plus, soit admirable. Voilà. Donc ça il n'y a pas d'autres exemples. On dit toujours que les films historiques doivent avoir du recul pour pouvoir être réflexifs. Là, on a quelque chose qui est au présent, et même un tout petit peu antérieurement aux horreurs qui allaient se passer. Et bon, même si, pour moi, le fait que Chaplin, évidemment, n'ait pas anticipé... C'est tout de même extraordinaire que les gens disent « Oui, mais enfin, tout de même, il y a eu la Shoah... » Il ne faut quand même pas oublier qu'en 1945 et en 1946 encore, nombre de gens n'y croyaient pas,
bien sûr.
En disant ça n'a pas pu exister. Mmh. Et même ceux qui ont fini par y croire disaient il était impensable cette chose. Anna Arendt, Brecht, etc. L'esprit humain n'était pas préparé à concevoir ce qui s'est passé dans l'extermination des Juifs d'Europe de façon industrielle, etc. Bon, on est quand même malvenu de dire à Chaplin qui fait le dictateur. Ah oui, tout de même, faire rire d'Hitler en 40. Ah là là, en 45, quand on a vu Treblinka et Auschwitz, on n'avait pas envie de rire, sous prétexte que lui-même l'a dit. Il a dit, oui, oui, si j'avais su qu'il y avait eu des temps d'extermination, je n'aurais pas fait le dictateur comme ça. Enfin bon, il est très sévère avec lui-même, et moi je trouve que le fait qu'il n'ait pas pu prévoir les camps rend le film d'autant plus extraordinaire que sur ce plan, personne n'a de leçon à lui donner.
Alors moi, justement, sur Bazin parle d'un film mal construit, hétérogène et hétéroclite. Alors moi, j'ai une hypothèse, c'est que Chaplin peut-être anticipe les propos d'Adorno sur la pensée après la Shoah. C'est-à-dire que un film ne peut plus être narrativement académique classique, c'est-à-dire et que le dictateur ne peut qu'être un film en lambeaux. Étant un film sur le régime nazi. Donc c'est peut-être là qu'il y a encore plus, il y a un aspect d'autant plus prophétique que Chaplin prophétise formellement avec cet aspect donc hétérogène, hétéroclite, mal construit, qui à la fois qui fait toute la beauté du film. On anticipe peut-être les propos de, enfin les propos d'Adorno qu'il écrira, dans je ne sais plus quel livre d'ailleurs.
Oui, certainement. Bien qu'Adorno ait aussi émis des critiques sur des points qui, à mon avis, ne tiennent pas. Quand il dit, par exemple, que quand Paulette Godard assomme avec une casserole...
Donc il a écrit sur le film aussi,
Adorno. Ici, ça se termine par une poursuite burlesque, alors que si, dans un ghetto, un juif qui aurait osé faire ça ou une juive aurait été immédiatement abattue, bon, c'est un mauvais procès, parce que le film, évidemment, est un film burlesque, extraordinairement sérieux, mais... La nature de fable et de conte qu'il adopte délibérément refuse l'argument réaliste selon Bien quoi une juive qui se serait permis ça avec un SA ou un SS aurait été immédiatement abattue. Donc l'argument, là, à mon avis, est à côté.
Mais j'ai l'impression que le film est vraiment de l'ordre presque du brouillon, du patchwork.
Oui,
c'est
parce
très,
que...
C'est très bizarre.
Oui, bon, moi je le trouve admirable de bout en bout.
Bien sûr.
Et une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre, c'est non seulement son caractère unique, mais c'était pour moi un film universellement connu, mythique même, et finalement pas très aimé et surtout pas très analysé, pas très étudié. Et on se souvient de 3-4 scènes, le discours, l'obus qui tourne, le discours final, 2 ou 3 choses comme ça, mais la construction du film, qui pour moi est au contraire extrêmement intéressante, n'a pas été vue, y compris par Bazin, qui est tout de même le plus grand théoricien du cinéma, et qui, est, bon, qui a écrit des choses magnifiques sur Charlot, sur Chaplin, et même sur certains aspects de ce film, des choses extraordinaires. Mais il y a une sous-estimation du film en tant que pris dans son entier.
Bien sûr.
Bon,
certaines scènes mythiques... éclipse la structure même du film, son entièreté,
voilà.
Comme souvent chez Chaplin d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on retient de tous ces films des temps modernes,
voilà.
On retient des scènes mythiques,
voilà.
On retient des presque des sketchs,
voilà.
Et on oublie
voilà.
la beauté de la structure.
Voilà. Par exemple, il y a quelque chose qui est extraordinaire, bon, le film il est amnésique, hein. Finalement les spectateurs sont frappés d'amnésie aussi, puisque très souvent je me suis aperçu que on sous-estime l'importance et la longueur du prologue. Le prologue est réduit à l'histoire de l'obus qui tourne sur lui-même, etc. Mais chaque fois que je revois le film, je suis surpris par la longueur de ce prologue qui est extrêmement important, extrêmement important, et qui ne se réduit pas à la grosse Bertha et à l'obus qui tourne, et puis vaguement l'avion qui tombe avec Schulz, qui est sauvé par lui. L'importance accordée par Chaplin à ce prologue est une importance très grande, politique, et la preuve d'une lucidité politique très grande.
C'est vrai que le barbier ne surgit qu'au bout de 30 minutes de
film.
Bien sûr. Avant, il y a 30 minutes de film, ce qui est énorme. Et donc, c'est la Première Guerre mondiale. Le film commence sur la Première Guerre
mondiale. Alors, évidemment, il reprend son fameux Charlot soldat. Mais surtout, il revient sur le fait que dans l'argumentaire nazi, et même objectivement,
les juifs
un des gros problèmes a été la guerre de 14, c'est-à-dire le traité de Versailles a été extrêmement dur avec l'Allemagne qui avait été vaincue, et soit les nazis, pour expliquer le désir de revanche, ou même des historiens objectivement qui n'ont aucune complaisance à l'égard du nazisme, reconnaissent qu'il pouvait y avoir, dans la dureté et très grande du traité de Versailles et des pénalités infligées à l'Allemagne, quelque chose qui pouvait susciter un désir de vengeance, même si ça ne justifie en rien, ça n'explique même en rien, la montée du nazisme. Mais le fait de faire ce prologue aussi long, et ensuite de faire ce fondu enchaîné sur tous les événements qui se passent entre 18 et 33, prouve à quel point Chaplin était quelqu'un qui avait une vision assez claire de l'histoire.
Et donc, en fait, le barbier juif a été soldat. C'est aussi ça que nous
il
rappelle
a été soldat,
ce problème. Il s'est battu pour l'Allemagne. Quoi.
Il a été soldat pendant la Première Guerre mondiale. Il a été assez brave, même s'il est un peu égaré. Et il sauve un pur Aryen, etc. Ce qui répond aussi implicitement ou silencieusement chez Chaplin à un des argumentaires nazis sur l'anti-judaïsme, qui est, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont été une cinquième colonne, ont trahi l'Allemagne, c'est à cause d'eux, en montrant que tout à coup, un petit troufion allemand ben, pouvait être aussi courageux et même sauver la vie d'un aviateur purement arien, si j'ose dire.
Alors j'aimerais qu'on revienne sur, on viendra sur l'amnésie de ce barbier juif, mais sur, peut-être sur une anecdote, l'idée que le film serait venu, enfin l'idée du film serait venue à Chaplin, en fait tout partirait de la moustache de Chaplin qui se partage en fait Chaplin et Hitler, et donc le réalisateur Alexander Korda aurait signifié cette ressemblance. À Chaplin, c'est ce motif-là, donc cette moustache-là, a été à l'origine, donc prend beaucoup de place dans un texte qui s'appelle Pastiche et Postiche, Le néant pour une moustache, d'André Bazin, où il revient sur l'importance fondamentale de cette moustache, puisqu'il dit que, en gros, le film n'aurait jamais existé si Chaplin et Hitler n'auraient pas partagé cette moustache. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais le citer. « Considérer que le dictateur eût été impossible si Hitler avait été glabre ou s'il s'était taillé la moustache à la Clark Gable. » Qu'est-ce que c'est, cette moustache ? Pourquoi elle est si importante ?
En substance, donc, ce que dit Bazin, c'est que il y avait deux hommes de spectacle. D'abord Chaplin, et puis Hitler, jaloux de Chaplin, lui vole sa moustache, et que le dictateur ait une revanche de Chaplin sur Hitler en se réappropriant sa moustache, avec en plus le paradoxe extraordinaire que la moustache de Chaplin était fausse alors que celle d'Hitler était vraie. Évidemment, la gravité du film n'échappe pas à Bazin. Il voit bien que cette moustache n'est pas simplement un attribut pileux. Pour lui, c'est ce en quoi se concentre l'être d'Hitler.
Oui,
à partir du moment où on lui enlève sa moustache, c'est le néant, on le néantise. Hein, voilà, c'est-à-dire que la moustache, c'est ce que je sais pas, Lacan appelait le trait unaire, c'est-à-dire quelque chose qui est un peu l'essence de quelqu'un. C'est son trait de singularité, et à partir du moment où on la reprend, c'est pas seulement sa moustache qu'on reprend, mais on le néantise, on l'annule. Et d'une certaine manière, Chaplin non seulement se réapproprie sa moustache, mais annule Hitler. Bon, c'est extraordinairement ingénieux, intéressant, mais alors ce texte qui est devenu mythique est lui-même un créateur de mythes à la limite du délire. Bon, ce qui s'est passé en réalité, c'est que la ressemblance entre Chaplin et Hitler, pour ce qui concerne cette moustache, et puis des proximités sur la naissance, le mois, etc.
On est à quelques jours d'intervalle.
Sur la célébrité mondiale également. Donc à l'époque, les deux personnes les plus connues, c'était Hitler et Chaplin. Bon. La ressemblance, à partir de la moustache, a été remarquée par beaucoup. Korda, Eisenstein, et
des
caricaturistes, des dessinateurs ont même fait des gags autour de ça, à partir du moment où la figure d'Hitler a commencé à émerger historiquement, étant bien entendu que Chaplin, lui, était universellement connu bien avant Hitler, hein, puisqu'en 14, en 15, alors qu'Hitler n'était rien, Chaplin était déjà universellement connu. Donc, je ne sais pas qui, si c'est Bazin qui le dit ou d'autres, il y aurait chez Chaplin le côté « j'étais dans le spectacle avant lui », ce qui se permet en plus de l'imiter en me prenant ma moustache. Bon. Je crois qu'Hitler ne pensait pas du matin au soir qu'à Chaplin. Et je ne crois pas du tout que l'engagement de Chaplin dans le dictateur soit dû exclusivement à cette question de la moustache et de sa ressemblance avec Hitler.
Et vous recentrez justement dans votre livre, vous dites, il y a bien une rivalité, mais il ne faut pas que, cette anecdote, cette idée qui est à la fois qui est charmante, enfin qui est stimulante, ne doit pas cacher ce qui se passe et la profondeur de ce qui se passe, la gravité de ce qui se passe. C'est-à-dire que, alors je vous cite, il s'agit d'une vraie guerre cinématographique d'anéantissement où l'existence d'un protagoniste n'est possible qu'au prix de la disparition de l'autre, voilà. Et que cela ait lieu dans un film mettant en jeu Hitler et les Juifs rend le fait encore plus troublant.
Bien sûr, bien sûr. Donc là, c'est ce que le film va jouer, c'est-à-dire que bon, pour que l'un soit là, il faut que l'autre soit anéanti.
Ils ne peuvent pas exister en même temps.
Voilà, donc on a une guerre d'anéantissement cinématographique. Alors que par rapport aux Juifs, pour Hitler, c'était l'anéantissement dans la réalité des Juifs d'Europe et peut-être du monde, s'il pensait aussi s'étendre planétairement. Mais la profondeur et la gravité, le sérieux de l'engagement de Chaplin sont terriblement sous-estimés quand on limite ça à cette question de rivalité de moustache. Tous ces films Charlot, puis ensuite les films qu'il a réalisés, que ce soit les temps La Rue vers l'or, La Lumière de la ville, surtout les temps modernes, son engagement politique, ses sympathies. Bon, en 1931, alors qu'Hitler n'était même pas au pouvoir, il a refusé d'accepter une invitation de Mussolini à venir le voir, etc. Il a pris des prises de position complètement anti-nazis constamment. Il était assez mal vu aux États-Unis parce qu'on le soupçonnait de sympathie communiste, pas au moment du macartisme où il y a eu des ennuis, non. Quand on lui a signifié qu'il ne pouvait plus revenir aux États-Unis. Mais déjà en 40, des gens se disaient « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et quand ensuite, il a appelé à l'ouverture d'un second front, c'est-à-dire à l'alliance avec Staline, alors là, c'était terrible. Donc, des gens ont été attaqués au moment du macartisme, pas parce qu'on les soupçonnait d'être communistes, parce qu'ils avaient été antifascistes en 40 et on les avait appelés des antifascistes prématurés. Voilà, donc. Sur ce plan, bon, le sérieux de l'engagement de Chaplin, la détermination contre tout le monde qui l'a guidé pour faire ce film, son obstination, son fanatisme. Parce que j'ai un représentant anglais qui dit à un moment : j'ai vu quelqu'un de fanatique sur le projet de ce film. Ils ne peuvent pas se réduire à une rivalité de deux hommes de spectacle.
Donc Chaplin est aussi fanatique que Hitler, quelque part.
Bien entendu. Bien entendu.
Qui est 40 minutes.
Donc là, c'est le discours classique. Avant, c'était les ténèbres et maintenant, c'est la lumière. Ça fait partie du mécanisme habituel des discours. Varan Bismarck, à un moment, s'est dit nettement. Bismarck, Varan Bismarck, donc c'est Göring. Voilà, ça c'est classique aussi. Les premiers compagnons de la lutte, ceux qui nous ont aidés à prendre le pouvoir, alors Göring, Goebbels, Garbage, qui avait poubelle.
Garbage.
Voilà, donc là, politique de natalité avec les femmes. Truc avec Mithiopsen. Voilà.
Sehen, der Herien und nach Tatschuten. Tatschuten. Und der Stift, das Sauerkraut mit der Tschuten. Und der Leberfust mit der Tschuten. Ey, der Filzensack Teiger mit der Tschuten. Ey, der Filzensack Klärten. Und der Strangelchen mit der Hultensack der Fläten. Und der Blätzensack der Elten. Besick, besack.
His Excellency has just referred to the Jewish people.
Und now, straff mit seinen Hütensack der Flair, der Flairten mit der Hütensack der Herden, und straff mit seiner Trotz, eine Flüten, der Heldtrutz, deiner, nach Europa. Blitzkrieg, Fratsch, Fratz mit Zikadelten, an Feinholz, Straff mit Zähne und den Franz, an Feinholzheim, Straff mit seiner Finnland und mein Holzheim, Straff mit seiner Russa, weiß Krasse, meine, ey, ey, der Flutzen, mit der Hels, der Straff, ey, der Sting, deiner Stunken, der Stunken mit der Europe, ein Stunken mit der Hölle, ey, ein Südhul der Glotzers, mit seiner Tomelia.
In conclusion, the Fooey remarks that for the rest of the world, he has nothing but peace in his heart.
Oui, non, ce discours-là aussi, voilà. On dit souvent que, bon, c'est une sorte de baragouin forme, un peu comme la chanson de Titine, incompréhensif et de borborygme avec des petits lambeaux de mots par-ci, par-là. Bon, bien évident, il mélange des langues. Mais le discours est très structuré, c'est pas du tout une sorte de logorée dont on aurait à se moquer, il suit exactement
la progression
d'un discours de quelqu'un qui vient de prendre le pouvoir et qui explique ceci, 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 cela.
En voyant cette scène, je me pose la question, de quoi parle le film ? Et il me semble que, et d'ailleurs vous le dites, dans les nombreuses notes que Chaplin laisse sur le projet, il finit par se recentrer sur la voix de Hitler, et en parlant de cette voix qui met la raison en déroute, accompagnée d'un appareil spécial qui l'amplifie. Et il me semble que le film, le dictateur, peut-être, c'est son sujet, est la voix d'Hitler.
Complètement.
Et sa reproductibilité, et l'impact et les effets que cette voix produit sur les corps des juifs, tout simplement. Et donc, alors, peut-être qu'on va... On va regarder un autre extrait qui illustre bien cette idée. C'est l'extrait avec où le barbier croit que Hinkel arrête d'oppresser le ghetto.
Et oui, en pour fait, finalement, tactique, comme il a besoin d'argent, il ménage un petit peu les juifs en espérant que des banquiers vont lui prêter de l'argent. Comme il refuse, tout à coup, il redevient très violent au moment où le barbier et Paulette Godard espèrent se promener un peu tranquillement pendant une période d'accalmie relative dans les persécutions. Et on entend la voix de...
En fait, on a deux films, j'ai l'impression. On a une sorte d'organisation pyramidale où ceux qui se décident et se délibèrent dans les séquences avec Hinkel produisent des effets sur les séquences dans le ghetto juif. Deux films cohabitent, mais il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. Et puis, le discours final va résoudre cette organisation hiérarchique où, en fait, le film du barbier juif va prendre le dessus sur le film de Hinkel. Alors, on va voir cet extrait qui est peut-être le seul extrait où ces deux films communiquent, peut-être, avec les haut-parleurs. Alors, moi, je pense que c'est ma scène préférée du film parce que on a là concentré ce que l'idée même du film, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, la reproductibilité technique de la voix. Et j'ai le sentiment qu'en 40, même s'il est peut-être trop tôt pour que Chaplin comprenne, fasse un film sur le meurtre de masse, il fait du coup un film sur la médiatisation de masse. Puisqu'en 40, on ne peut faire finalement que ça, puisqu'on ne sait pas encore très précisément ce qui se passe. Et on voit comment, avec le début incroyable, avec les fondus enchaînés, on voit, et surtout le fait que la voix n'est pas traduite, qui ajoute à l'aspect vociférant de la voix de Hinkel.
Oui, mais en revoyant ça, je suis complètement émerveillé, une fois de plus. Parce que là, en termes purement de cinéma, hein, dépendamment du mythe, des questions de théorique ou politique, cette scène est splendide. Quand toutes les voix, la voix d'Hitler commence à hurler, qu'ils s'en rendent compte, tout à coup, Chaplin, enfin, le barbier, Ivan Godard reste absolument immobile dans le blanc, pendant qu'autour de lui, tout le monde évacue la scène. Chaplin était tellement perfectionniste que ça se joue à la seconde près.
Donc,
cette mise en place chorégraphique, le plan qui se vide, il reste absolument figé dans le plan. Ensuite, Chaplin, dont on dit oui, c'est toujours des plans fixes pour le mouvement de caméra qui suit le trottoir diagonalement et qui accompagne Chaplin et Charles Barbier et Paulette Godard. Et puis la façon dont la chorégraphie de Chaplin personnellement ou du couple est calquée sur les mouvements de les intensités de la voix. Parce qu'il y a un problème, oui, c'est-à-dire qu'il a posé un problème énorme, Chaplin, parmi ses admirateurs. Il y a ceux qui disaient, c'est un génie, tout court, tout seul, dans la rue, au music-hall, sur des planches. Dans le cinéma, il n'a rien apporté, sinon lui-même. Comme il était génial, il a apporté au cinéma son génie, et c'est génial parce qu'il s'est apporté lui-même. Je crois que quelqu'un comme Jean Epstein, qui était pourtant un théoricien du cinéma et un grand admirateur de Chaplin, a limité pour moi son importance cinématographique à ça. Chaplin n'a rien apporté à l'histoire du cinéma que son génie personnel, qu'une caméra enregistrée. Bon. D'autres, à mon avis, et c'est mon point de vue aussi, Benjamin, entre autres, l'a dit, Chaplin est absolument accordé à la machine cinématographique. C'est-à-dire qu'il y a entre le corps de Chaplin, sa gestuelle, ses mimiques, une synchronie, enfin un accord extraordinairement précis, au micro-mouvement près, qui n'en fait pas simplement un acteur et un mime de génie, qu'une machine nouvellement inventée, c'est-à-dire le cinéma, tu serais contenté de mettre en boîte. Dans cette scène, c'est absolument patent. Ça n'est pas du tout quelqu'un qui est extraordinaire et qu'une caméra enregistre mécaniquement, mais on a quelqu'un qui est accordé. Je crois même qu'il y a un texte de Benjamin qui dit que non seulement il était accordé aux 16 images secondes ou aux 24 images secondes au moment du parlant, mais que la gestuelle de Chaplin, avec ses micro-mouvements, était accordée à la décomposition du travail capitaliste en travail à la chaîne. Ouais. Donc voilà, entre ceux qui pensent que Chaplin n'a amené que lui-même au cinéma et ceux qui pensent qu'il a apporté énormément au cinéma parce que précisément il y avait une transformation de Charlot par le cinéma, cette scène fait la preuve que sont les tenants de la deuxième position, dont je suis. Qui ont raison.
Mais j'ai l'impression qu'il y a une ambiguïté ici, dans cette scène, et dans toutes les scènes chorégraphiées, qui sont nombreuses dans ce film, c'est qu'on ne sait pas si Chaplin danse là, ou s'il est comment dire, travaillé au corps par la voix d'Hinkel. Donc il y a à la fois oppression et liberté à l'intérieur même du corps
bien
de Chaplin.
Bien sûr.
Et ça a toujours été ça, en fait, Chaplin, c'est-à-dire qu'il est traversé par les événements du monde, les événements historiques, la violence urbaine dans le personnage du vagabond qu'il incarne dans ses films précédents. Et donc il y a cette ambiguïté vraiment qui est, je crois, d'autant plus sensible ici que l'histoire est transformée, métamorphosée en événements sonores. En gros, ce serait ça, c'est-à-dire que les événements historiques se déposent sur le corps de Chaplin par le son, et cette image, enfin, cette scène le montre très bien.
Mais le film est justement, alors pour reprendre les critiques relatives de Bazin sur la mauvaise construction du film, ou d'autres qui pensaient qu'il aurait fallu couper une demi-heure du dictateur, ça a été écrit beaucoup. Bon, le film est construit admirablement, c'est-à-dire qu'on a, au moment du premier discours, on a la voix et le corps de Hinkel. Hein. Bon, on connaît les résistances de Chaplin à l'arrivée du parlant, mais quand il s'y est mis, il a pris de l'avance sur beaucoup de cinéastes. Donc d'abord, le corps et la voix, synchrone, puis au moment de ces hurlements, on a pratiquement que la voix. On a un plan au début de Chaplin, et puis à la fin, il fait très peur en gros plan quand il hurle. Mais enfin, l'essentiel de la scène est fait sur une voix sans corps, sur laquelle le propre corps de Chaplin et de Colette Goddard se calquent plus ou moins pour essayer d'y échapper ou pour s'accorder à lui dans la tentative de s'en libérer. Et à la fin, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a aussi dans le deuxième discours, qui est le pendant du premier, on a le barbier qui laisse apparaître en surimpression Chaplin, son corps et sa voix. Et à la fin du film, le corps de Chaplin est lui-même, pas seulement Charlot, mais Chaplin, qui est apparu derrière Charlot, disparaît. Et dans la scène en Austrasie, c'est-à-dire en Autriche, où on retrouve Paulette Goddard et sa famille, la fin du film, on n'a plus que la voix de Chaplin.
Alors on va en parler de cette scène, tout de suite même.
Son corps a disparu. Après son discours, il est épuisé et son corps disparaît lui-même. Et ça n'est plus que sa voix qui est recueillie par Paulette de Goddard. Donc on a une structure très serrée sur le rapport corps-voix, puis voix seule, corps-voix, puis voix seule.
vous dites, et tout le monde remarquera, qu'à ce moment-là, le barbier qui est en fait l'apparition, enfin Chaplin s'adresse à nous, il s'adresse à nous sauf qu'il se parle à lui-même. Hein. Il prend vraiment cette tonalité de voix qui fait qu'on pense, on a vraiment l'impression qu'il se parle à lui-même, à l'inverse de Hinkle qui sait qu'il s'adresse aux foules. Donc rien que sur cette chose imperceptible.
Il interpelle Anna également.
C'est ça, il se parle à lui-même et ensuite il parle à une seule personne. Voilà. Alors que Hinkle, dans le discours, enfin, si on devait mettre en parallèle le discours d'Hinkle et celui de Chaplin à la fin, on voit qu'il y en a un qui s'adresse aux foules, qui le sait pertinemment et qui joue de ça, et un autre qui ne veut pas s'adresser aux foules, se parle à lui-même et puis parle à l'être aimé et nie presque même l'idée de foule puisqu'il nous interpelle seul à seul, enfin il nous interpelle individuellement. Alors on va parler de ce qu'on appelle donc cet appel aux hommes, qui donc Chaplin apparaît d'abord dans le plan sans les micros, ce qui produit donc, il essaye de passer au-delà de la reproductibilité technique, c'est-à-dire qu'il s'adresse sans médiation à nous. Donc on a à la fois une percée de la reproductibilité technique et en même temps une percée de la fiction. C'est-à-dire qu'au-delà de la fiction, Chaplin s'adresse à nous, il fait quelque chose qui est interdit, c'est-à-dire que le film, alors même qu'il n'est pas résolu, se termine sur Chaplin qui s'adresse à nous. Et ça a été beaucoup commenté, beaucoup critiqué. On a trouvé ce geste assez maladroit, assez naïf, je crois. Et peut-être que toute sa beauté réside dans cette témérité-là, dans cette naïveté-là.
Oui, on l'a reproché, c'est son audace, tout simplement. Les gens étaient sidérés qu'on ose faire ça. C'est-à-dire que tout à coup, bon, il s'adresse directement au spectateur du cinéma, d'abord aux soldats, puisqu'il s'adresse à eux, aux spectateurs du cinéma, et ensuite au peuple du monde, mais le discours est magnifiquement construit. Ça a été un moment. Bon, faut s'imaginer ce que représente cette performance, le fait qu'elle ait pu avoir lieu. Il a chassé tout le monde du plateau. Il est resté avec très peu de personnes. Enfin, c'est une épreuve de vérité inouïe. Enfin, je crois qu'il faut pour mesurer la grandeur de ce moment, il faut se remettre
dans le contexte.
On est en 40. L'Amérique n'est pas en guerre. Chaplin tout seul fait le vide autour de lui. Pour faire ce discours. Et il est très compliqué parce que d'abord, ensuite réapparaissent les micros. Mmh, et ensuite, ça c'est magnifique, il y a un petit mouvement de caméra qui vient vers lui, qui s'approche de lui, qui efface les micros. Et là, il ne s'adresse qu'au peuple du monde. Mais c'est très curieux parce que d'abord, quand il s'adresse aux soldats, c'est le moment où Chaplin a dû espérer peut-être que le peuple allemand, ou en tout cas que les soldats, comme il y a eu des mutineries en 14, etc., puissent tout à coup se révolter contre le régime nazi. Et il avait, je ne sais pas si vous connaissez ce document, mais son propre frère, Sidney Chaplin, qui était sur le tournage, a filmé en couleur. Donc ça, on peut le voir, hein, je l'ai vu dans certaines émissions, ce qui se passe au moment du discours. C'est-à-dire, après le discours de Chaplin, on voyait des soldats de l'armée allemande jeter leurs armes et tout d'un coup se jeter dans
ça.
Les...
Bon, grosso
modo, voilà, crosse en l'air. Visiblement, Chaplin devient de plus en plus pessimiste, il s'aperçoit que le peuple allemand suit Hitler et que espérer que les prolétaires allemands ou que les soldats allemands allaient se révolter contre leur chef, c'était déjà dépassé, et donc il n'a pas monté cette scène. Ce qui fait que, d'abord, il s'adresse aux soldats, ensuite, il s'adresse au peuple du monde, et ensuite, il les conjoint. Et contrairement à ce qu'on peut raconter, ce discours n'est pas un discours sentimental, etc. Il commence sur un certain nombre de vérités, d'évidences, et il se termine à la fin comme un discours d'appel à la lutte armée. Enfin, c'est un discours presque de soulèvement. Il est admirablement construit avec ses trois temps, quoi. Et après, lui-même disparaît, comme s'il s'était dissous, et on revient sur Paulette Godard.
Alors, on va voir justement la vraie fin du film.
Oui.
Alors, déjà, avant cette séquence-là, on peut dire que la vedette a gagné. La vedette a remplacé le dictateur avec les moyens du dictateur, c'est-à-dire le charisme, la reproductibilité technique, etc. Vous faites une analyse vraiment brillante et vraiment brillante sur cette dernière scène et sur notamment la musique, le prélude de Lohengrin de Wagner, qu'on entend déjà dans le film une première fois.
Oui, mais alors ça, c'est vraiment extraordinaire parce
que... Allez-y.
Sur Wagner, bon, alors, on sait que Wagner est un immense musicien, antisémite, notoire, militant, ayant écrit des textes dans ce sens. Et souvent, les gens disent « Ah oui, Wagner, oh c'est facile, Chaplin a mis Wagner du côté des nazis, c'est un stéréotype. »
Donc c'est la scène de
c'est
danse.
C'est la scène de la map monde.
Voilà. Et,
bon, alors qu'à la fin...
La même musique retentit.
À la fin, le même prélude de Lohengrin. Donc, d'une certaine manière, Chaplin arrache Wagner aux nazis, si on peut dire.
C'est-à-dire que, bon, comme bon, la moustache. La moustache bah, et
absolument.
Wagner
ce qui fait la moustache, d'une certaine manière, lui qui adorait Wagner, hein, Chaplin, et qui était très, très profondément musicien, contrairement à ce qui a été dit, c'était réellement quelqu'un qui connaissait bien la musique, quelqu'un comme Hans Eisler, qu'il voyait à Los Angeles, en a témoigné, c'était pas du tout... un petit inventeur de tubes ou de mélodies faciles. C'était quelqu'un qui connaissait bien la musique. Et il se réapproprie, ou plutôt il désapproprie le nazisme d'Hitler, en le faisant, puisqu'à la fin, c'est même plus sa voix qu'on entend. À la fin, on a le visage de Fred Godard et on a le prélude de Lohengrin. Hein, ça se termine là-dessus. Mais ce qui est très, très intéressant dans le plan qui ouvre l'extrait que vous avez montré, c'est quand on voit la famille. Et là, j'ai encore lu récemment, dans un texte pourtant de... c'est important, c'est intéressant sur Chaplin. Oui, en Australie, ils entendent la radio et ils entendent la voix donc, du fameux discours de la paix. Non, dans ce plan, la famille est là, ils écoutent une voix qui vient du ciel. Il n'y a absolument aucun appareil de transmission technique qui montre qu'ils sont en Autriche en train d'écouter le pseudo-discours d'Inkel, qui est en fait le discours du barbier.
Marrant,
on a ici quelque chose qui efface la technique et qui est... Alors, bon, on sait que Chaplin avait un projet sur le Christ, etc. On a beaucoup glosé là-dessus. Mais c'est une voix qui vient du ciel. Hein, et, ils sont là, ils sont debout devant la ferme ou la maison. Ils regardent tous en direction du ciel et pas du tout en direction d'un appareil de radio qui retransmettrait le discours qui vient d'Allemagne. Ça continue.
Moi, j'ai cru ça.
Non.
Et j'ai cru, encore pire que ça... qu'au moment où Paulette Godard dit « listen », elle dit « listen » parce que d'un seul coup, le silence se fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que sous la musique de Wagner, j'ai entendu le silence, un silence qui venait en fait après un film où les vociférations étaient incessantes. Donc moi, j'ai vu le silence à la fin de ce film, là où vous voyez Wagner. Donc, c'est-à-dire que chacun voit ce qu'il veut, mais ça devient
un délire total. En tout cas, vous
avez raison, en fait.
Il y a une chose certaine, c'est que la famille en Austrasie, donc en Autriche, envahie, n'écoute pas la radio quand ils entendent le discours. Le plan, Chaplin, qui sait exactement comment il doit filmer, quel plan il doit mettre ou ne pas mettre, fait ce plan, au lieu de rester sur Paulette Godard, de toute la famille sur le seuil de la porte, regardant au ciel ou en l'air, comme elle le fait elle-même, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà de la technique, alors qu'on peut dire divin ou christique, mais bon, d'autant que Lohengrin, c'est aussi quand même l'image de quelqu'un qui survient ça pour résoudre les problèmes du monde. Hein,
ce que vous dites là me rappelle ce dernier plan des temps modernes où Paulette Godard et Chaplin partent au loin, mais le chemin est bardé de câbles électriques, c'est-à-dire c'est un plan finalement assez pessimiste, puisque la technique...
Bien
on
sûr.
Croit qu'ils vont vers la nature, en fait, ils vont encore vers la technique, vers un monde...
Bien sûr, le plan final des temps modernes est un plan très ambigu.
Bien sûr.
La plupart des analyses, ils voient une sorte de fin optimiste, le couple part avec l'horizon. Mais je connais aussi des analyses très, très, très pessimistes de cette espèce de route où il n'y a personne avec ces fils électriques. Et ici,
là, c'est pareil,
tout l'appareillage technique est volatilisé. On est dans quelque chose d'immatériel, de séraphique, d'aérien, de purement musical, et où on n'a que la voix, puis la musique.
Donc la voix de Chaplin vient du ciel, et Wagner aussi vient du ciel.
Oui. Mais je crois que c'est très important
c'est
très de noter, parce que ça continue encore à être écrit, qu'ils ne sont pas en train d'écouter en Autriche la radio d'Hitler remplacée par le barbier. C'est quelque chose qui transcende l'appareillage technique, et je pense que là-dessus, Chaplin, qui a une pensée de la technique, les temps modernes, etc., tout l'usage intermittent, alterné des relais techniques, c'est-à-dire des micros ici, est très savant.
Bon, bien sûr.
À la fin, il sait pertinemment qu'on est dans quelque chose qui est la voix, quoi, avec un grand V, alors de qui, on peut gloser sur l'aspect spiritualiste ou religieux ou musical de la chose. Moi, j'irais plutôt musical, hein, puisque tout de même, on a Lohengrin qui est perdu ici. Quand Chaplin veut montrer dans le ghetto les gens regroupés autour de la radio, il n'est pas dans l'à peu près. Hein.
Ouais.
Non, je crois que là, il y a chez lui quelque chose de très pensé sur le rapport entre le corps et la voix, où on élimine Hinkel, deux, Chaplin élimine Charlot, puis Chaplin se disparaît, ne laisse plus qu'une voix et de la musique, et finalement, en tant que voix, disparaît aussi, et ne laisse plus que la musique confrontée au visage de Paulette Godard.
Donc au final, c'est Wagner qui gagne quand même.
Chaplin.
Alors vous reprenez un texte de Walter Benjamin, assez très connu, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Benjamin se méfie de la vedette. Précisément parce que son image, sa voix sont reproductibles et qu'à partir de là, si elles sont reproductibles, cela veut dire que cela implique forcément en face la masse. Donc qu'est-ce que c'est ce... Peut-être qu'il y voit quelque chose de l'ordre de une sorte de nocivité de la vedette, qu'il y a quelque chose de...
Il faut se méfier de la vedette. Oui, il y a un moment qu'à l'ère de la reproductibilité technique... C'est d'ailleurs un texte sur lequel Barthes, dans la Chambre claire, et même plus largement, est absolument en désaccord, puisque lui, la reproductibilité technique pour Barthes n'altère pas l'unicité de la chose qui a eu lieu au moment où une personne a été photographiée. Ça peut être reproduit techniquement indéfiniment, mais existentiellement, ça n'a eu lieu qu'une fois, le fait que sa mère ait été photographiée au Jardin d'hiver, à Sennevières. Bon, pour Barthes, là, il y a une absolue divergence avec les positions de Benjamin. Jean-Claude Milner en a très bien parlé, souvent. Mais là, bon, dans le texte de Benjamin, il y a un moment, bon, même par rapport à cette ère de la reproductibilité, le rapport direct avec les masques, ça implique, finalement, les deux rivaux, c'est l'homme de spectacle, la vedette et le dictateur. Or, il se trouve que Chaplin... Et l'un va incarner l'autre dans un film où il est à la fois Charlot, c'est-à-dire le comique le plus célèbre, et Hinkel, le dictateur le plus célèbre du moment.
Et donc Benjamin dit que donc l'acteur, la vedette et l'homme poétique ont subi des transformations parallèles, et que la reproductibilité technique, et là c'est, je pense qu'on va, ça fait tous pour nous écho à ce que peut être aujourd'hui. Ce que peuvent être aujourd'hui les médias, forcément la reproductibilité technique implique qu'il y ait une sorte de lutte, c'est-à-dire où les plus performants, les plus éloquents, les plus charismatiques vont gagner. Ouais. Et à ce combat-là, le dictateur et la vedette gagnent forcément ce match.
Voilà.
Alors c'est dingue de voir à quel point le dictateur est l'illustration parfaite de cette idée.
On est au vif du sujet, là. Qu'est-ce que c'est que l'emprise? Et un film qui est construit justement sur les deux discours. L'un qui est celui du dictateur et l'autre qui est celui du barbier, tout d'un coup, qui lui-même est annulé. Et d'une certaine manière, Charlot est lui-même néantisé là, par Chaplin. C'est le moment du discours final où tout d'un coup...
C'est Chaplin qui apparaît.
Voilà, tout d'un coup, Charlot se dissout et apparaît Chaplin. Ce que dit Bazin est absolument magnifique. Je crois qu'il dit ce moment de psychanalyse cinématographique est un des plus hauts moments de l'histoire du cinéma. Donc il sous-estime la construction du film en son ensemble, mais pas du tout les moments les plus extraordinaires, dont celui-là, là aussi, qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire du cinéma.
Qui ne peut pas en avoir.
Godard, qui lui était toujours un très grand défenseur de Chaplin, cinéaste, ce qui n'était pas le cas de Romère, a dit c'est l'invention du cinéma vérité. ces moments qui... oui, qui... parce qu'on a souvent parlé de l'adresse directe.
De percer.
Ça,
de...
bien sûr, c'est évident. Chaplin crève la frontière Salle-Seine et s'adresse à la planète entière. Mais ce qui est surtout impressionnant, c'est la dissolution du... Il anéantit chez Charlot.
Alors, j'ai une dernière question, et on va vraiment finir là-dessus. C'est que votre livre est dédicacé à Quentin Tarantino pour ses scalpers. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette dédicace?
Non, parce que il y avait une grande polémique autour de Tarantino. Moi, je sais que c'est ce que j'aime assez, pas tous ses films, mais, et que j'aimais beaucoup Inglourious Basterds. Et ça correspondait à peu près au moment où je préparais, où je travaillais mon livre. Le film avait été aussi très attaqué. À quoi ça rime, cette uchronie, Hitler n'a jamais été tué dans... on peut aussi dire à Chaplin la même chose. Hitler n'a jamais été remplacé au cours de ses discours par un barbier juif. Ça n'a aucun sens, ce genre de reproche réaliste. Et puis bon, je trouvais assez drôle que dans le film de Tarantino, ce soit précisément des juifs qui scalpent des nazis ou qui leur dessinent des croix gammées au couteau. Et voilà, c'était simplement pour signaler que j'aimais bien ce film, et un peu pour répondre à ceux qui l'avaient assez violemment attaqué sur plusieurs points.
Merci beaucoup, Jean Raboni.
De rien, c'est moi. Thank you.